France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Teresa Berganza. Je suis née à Madrid en 16 mars 1933. Je suis chanteuse classique.
Arrivée à Aix-en-Provence en 1957, Teresa Berganza, pour ce premier festival, vous arrivez, je crois, justement, avec votre professeur et votre famille, vos parents.
J'étais comme le gitan toujours. La première fois, je suis arrivée avec mon professeur et des amis de mon professeur. On habitait une jolie maison là, et j'étais avec eux. Comme, bon, tu n'as pas mangé, tu dois manger ça, tu dois faire ça. En plus, elle venait à toutes les répétitions, elle me disait, je n'aime pas comme tu as chanté ça, tu dois faire ça, et ça. Mais après, l'année après, comme je suis allée presque toutes les années, j'ai loué une maison et j'ai amené toute la famille. Parents, sœurs, toute la famille, les enfants, les services pour les enfants, ça fait rien. Je me disais, ça coûte beaucoup, mais je m'en fous. Je vais vivre avec mes enfants, avec ma famille et avec les miens. Et mes enfants, l'une, la plus grande maintenant, 58, je crois qu'elle va faire, elle se souvient toujours d'Aix-en-Provence. Et mes petits-filles aussi. Parce que j'ai des photos à Aix-en-Provence avec ma petite-fille dans les bras, avec Pampan. Vous avez connu Pampan, le maquilleur?
Non.
Ah, il était génial. Quand il a commencé à me maquiller, il semblait qu'on m'avait fait le lifting parce qu'il était génial. Et la petite, se mettait avec moi pendant que me maquillais parce qu'elle voulait être maquillée, mais elle avait un an. Hein. Elle s'était déjà avec moi.
Vous avez eu des enfants à quel moment, du coup, Teresa Berganza?
J'ai eu mon premier enfant, quand j'étais 59, j'avais 26.
Donc vous étiez déjà dans la carrière?
J'étais dans la carrière, elle me disait, attention, parce que avoir un enfant après la musculature, et j'ai dit, je m'en fous, je vais être mère et je vais avoir un enfant. Si je ne chante pas, je ferai une autre chose. Mais un enfant, je vais le voir. J'étais mieux que jamais quand j'attendais un enfant. L'autre, je l'ai eu un an et demi après. Alors j'étais toujours avec... toujours j'étais avec un ventre comme ça que... me disait, de nouveau? Et c'est toujours le même... Mais il avait les deux comme ça. Et après, j'ai eu la plus petite, que j'attendais pour la plus petite, 4 ans. Et ça, la petite était faite à Aix-en-Provence. Avec Werther. Je savais que la passion de Werther et tout ça, j'avais une autre enfant. Elle est fabriquée à Aix-en-Provence.
Jetzt die süße Spanierin Teresa Berganza singt ein baskisches Volkslied. Am Flügel ihr Gatte Felix Lavilla.
Il y a un père pour tous ces enfants, quand même.
Il y a eu un père. Il y a un père qui ne voulait pas avoir beaucoup d'enfants, parce qu'il disait que pour ma voix, tata. Mais il y a un père formidable, que c'était un grand pianiste. Un grand, grand pianiste. Et un homme formidable, mais que c'est arrivé à un moment qu'on ne se comprenait plus. Et ça arrive, c'est la même chose que j'ai dit avant. Pourquoi il est arrivé à un moment que J'allais toujours en avant, et il restait un peu de rire, et ça, c'est pas bien. Pour un homme, espagnol, spécialement.
Un pianiste, pianiste.
Et il était très, très, très grand pianiste, il aurait pu faire n'importe quoi avec les plus grands.
Vous avez des moments aussi où, du coup, vous chantiez avec lui, Félix Lavillard, pour le nommer. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, Teresa Berganza, qu'en fait, c'est difficile peut-être aussi de vivre avec un musicien?
Ça dépend. Moi, je dis toujours que mon mari était basque. Et les Basques ont son caractère. Moi, comme vous voyez, j'étais encore plus passionnée, contente, heureuse, à rire, à un mouvement continu tout le temps. Et il était plus tranquille, il se mettait à jouer son piano des heures et des heures. Et j'arrivais pendant qu'il étudiait, et je l'embrassais. Comme te quiero. Moi, je t'aime, je t'adore. Il me disait, mais tu ne vois pas que maintenant je dois étudier? Et ça me détruit complètement. Mais j'ai dit, il était basque. Et le dessin était catalan. Alors, je n'ai pas choisi très bien. J'aurais dû choisir un sevillano, un andalou, qui m'avait chanté flamenco et il m'avait dit tout le temps que tu es belle, que tu es belle, que je t'aime, que je t'aime. Je voulais ça. J'ai mes trois enfants, j'ai laissé tout le possible avec moi. La première fois qu'on est allé à New York, c'était Noël et je ne voulais pas le quitter. J'ai amené mes enfants, la nurse et le mari et moi. On a vécu là un mois et demi ou deux mois. Et je vous assure, j'avais chanté 6 représentations de Barbieri et j'avais fait, avant d'arriver les enfants, 6 récitals dans les États-Unis. Ça veut dire 12 représentations. Vous savez qu'est-ce que j'avais quand je suis sortie dans l'aéroport? 1 dollar. Tout ce que j'avais gagné, c'était passé avec toute la famille, avec et je suis très heureuse. Parce que quoi, d'avoir maintenant, je sais pas, 500 000 dollars en plus, que ça ne me sert à rien. Et pourtant, j'étais très heureuse. Et j'ai eu mes enfants avec moi. Et j'ai les amenés à voir Disneylandia. Et formidable. J'ai une vie très belle. Quelquefois, je dis que la vie est difficile, mais j'ai une vie très belle. Très belle.
Fait beaucoup de récitals, comme vous venez de le dire, beaucoup. Comme à New York, et ça, finalement, c'était aussi une de vos particularités.
Avec elle, avec mon professeur, qui était élève d'Elisabeth Schumann, un des plus grands lyristes, avec elle, elle me disait toujours, il ne faut pas se dédier seulement à l'opéra, parce que tu aimes beaucoup chanter pour les autres, donner, et dans les récitals, on donne beaucoup. Alors j'ai fait ça normalement, la moitié de récital et la moitié d'opéra. Et comme ça, on est complet.
Quand on fait des récitals, c'est aussi une relation privilégiée avec les pianistes. Vous avez joué avec plusieurs pianistes, comme Gérald Moore, comme Alexis Weissenberg.
Oui, je vous assure que le meilleur pianiste que j'ai eu, c'était mon mari. Il était grand, grand. J'ai joué avec Weissenberg, j'ai chanté avec Barenboim, j'ai chanté avec l'anglais.
Gérald Moore.
Gérald Moore était un amour. à part le grand pianiste qu'il était, et comme il jouait bien la musique espagnole. Parce qu'il a joué beaucoup avec Victoria de Los Angeles. Et voilà, avec des gens de lesquels on apprend toujours quelque chose.
Le récital, c'est une façon aussi peut-être d'être dans la plus grande simplicité, plus nu d'une certaine façon, mais déjà des petits opéras, quand on pense au cycle par exemple de Mélodie, au cycle de Schumann, c'est comme des opéras en petit, on raconte une histoire.
Naturellement, le récital, les chansons, les mélodies, il faut travailler beaucoup les textes. Parce que là, à travers les textes et la mélodie, on peut donner au public les émotions qu'écrit M. Schumann ou M. Forêt ou à travers la parole. C'est quelque chose de plus intime. Parce que naturellement, dans l'opéra, il y a les autres chanteurs, l'orchestre, le chœur, les robes, c'est une autre chose, c'est un personnage déjà. Ici, il faut créer dans le récital les personnages, il faut les vivre dans l'intimité et poi les transmettre. Et nous avons, les chanteurs, nous avons la chance d'avoir la parole. Et à travers la parole, l'expression est beaucoup plus facile. Moi, quand j'ai commencé à donner mes leçons de chant, j'insistais beaucoup à la parole. Parce que quand on ne comprend pas, il y a des voix formidables, mais on ne comprend pas ce qu'on dit, ça, c'est pas le chant, c'est la parole.
C'est comme dans Le Chevalier à la Rose.
Je n'ai pas chanté Le Chevalier à la Rose parce que je ne parlais pas allemand. Et je voulais le parler et savoir chaque parole. Et ça, quelque chose que je disais, et je ne le chantais. Et ça, je pouvais le chanter. Bon, dans la prochaine vie.
Comment est-ce que vous avez travaillé, Teresa Berganza, comme vous aviez la chance d'être pianiste? Est-ce que vous travaillez beaucoup toute seule, du coup, au piano? Comment ce texte, vous le parlez?
Moi, j'aimais beaucoup découvrir, faire la découverte, moi seule, d'une partition. Tant de la mélodie comme de l'opéra. Alors, je me mettais au piano, je pouvais lire et chanter, parce que ça aide beaucoup à comprendre mieux la musique. Et bon, quand j'ai fait ce qu'on appelait musique de chambre, on nous donnait une partition d'orchestre, comme ça, dans le piano, à vue.
Il fallait réduire à vue, c'est ça?
On lisait tout l'orchestre et on la jouait dans le piano. Moi, quand je pense que j'ai fait ça, je ne le crois pas. Et on devait savoir qui avait la mélodie, si le fagot ou le violoncello ou qui. Ah, c'est formidable. Mais la musique, c'est la passion plus grande de la vie, l'amour.
Vous aviez envie de diriger, parce que vous avez fait toutes les études au conservatoire, mais les études de direction, Teresa Berganza, de chef d'orchestre.
J'ai voulu, mais les femmes ne dirigeaient pas. Maintenant, oui, il n'y a plus de femmes. Mais je crois que j'ai dirigé une bande municipale à une ville qui s'appelle Toro. C'était la bande municipale des étudiants de conservatoire. Et j'ai dirigé un passo doble. J'étais dans tous les états de joie. J'ai dirigé la bande municipale, oui. Par les orchestres.
Les grands entretiens de Teresa Berganza, France Musique.
Il y avait aussi donc le rôle de Dorabella dans Cosy, aussi pour regarder un peu ces rôles mozartiens que vous avez aimés. Ça aussi, ça s'est passé à Aix, cette Dorabella. Vous en avez des souvenirs, j'imagine, de ces premiers moments. Le travail avec Hans Rosbaud aussi.
Oh, c'était formidable. Oui. C'était comme Hans Rosbaud, c'était comme un père. Tellement il m'aimait que sa femme et lui, on voulait m'amener avec eux à travailler, à étudier en Allemagne. Il était formidable. Et naturellement, avoir Teresa Stirrendal, comme Fiordiligi. Monsieur Teresa qu'on disait, mais pour moi, c'était la Teresa et l'accompagnement, que c'était moi.
Mozart, quand vous étiez au piano, Teresa Berganza, il vous était déjà naturel?
J'ai joué Mozart. Ils sont là. Quand je me mets à jouer, ce sont les sonates de Mozart. Je sais pas, c'était une passion. Puis j'ai fait mon examen de la dernière année de piano, c'était avec une sonate de Mozart. Sonate en la majeure. J'adore Mozart. Et les quatuors, et tout. Il était un génie. Après, j'aime beaucoup de compositeurs, beaucoup de musique. Mais quand on te dit, si tu allais dans une île, moi, j'amènerais Mozart. Ou une sonate, ou une... Je sais pas. J'adore le duetto de Don Giovanni, concertina. Et j'adore vraiment... Ça, peut-être je l'amènerais dans le terzetto de Così fan tutte, con Don Alfonso. Ça, c'est... Personne n'a écrit rien qui peut arriver à cette musique, que c'est célestial, et c'est parfait, parfait. Carlo Maria Giulini, il allait après dans les loges et disait, je vous en prie, ne faites rire à Madame Berganza. Ah, qu'est-ce que c'était Giulini, adorable.
Vous l'avez rencontré à Tel Aviv?
À Tel Aviv, si, la première fois, après à Aix et après avec Claudia Abbado. Il était comme nous, il riait. Et quelquefois, ne voulait pas même pas nous regarder pour ne pas rire. Nous, on était très bien. En plus, comme il était presque tous des opéras très gais, il y avait l'amour, il y avait la danse, il y avait tout ça. Tosca, on ne s'aimait pas à rire de, quand il s'est jeté par là. Hein? Ou mais... quand la Mimi meurt, on ne peut pas rire. Je n'ai jamais senti Mimi, même si j'aurais voulu être Mimi. J'aurais voulu beaucoup être Mimi. Mimi et Traviata. Mais c'était pas pour moi. J'ai fait des autres choses.
Alors Teresa Berganza, parlons-en de cette Carmen. Parce que cette Carmen, pendant 20 ans, vous allez dire non, non. Et puis un beau jour, finalement, Peter Diamond, c'est ça, va finir par vous convaincre de le chanter.
Il m'a dit, oh, tu l'as fait l'année prochaine, on ne l'a fait plus. Alors il m'a mis, et j'ai commencé à voir si je pouvais la chanter. Et c'était formidable, elle était dans ma gorge, et c'était ma Carmen. Ma Carmen respectée. Parce que si on voit la partition de Carmen, combien de fois on entendait crier, et me sévissait à mi de paix. Et on entend vraiment des cris. Et on peut dire n'importe quoi à l'oreille. La chose plus forte, on peut la dire à l'oreille. Peut-être quelquefois elle a plus force qu'avec un cri.
Alors à Édimbourg, c'était en 1977. C'est la fin de Franco. C'est vous, Carmen, un rôle qui va être extrêmement important dans votre vie. La découverte de ce Mérimée et de cette femme libre, ça va résonner.
Oui, mais vous avez parlé de Franco.
Oui, parce qu'en 77, c'est la fin de Franco.
Franco n'avait rien à voir à ma vie. La politique ne m'a fait rien. Peut-être la religion m'a fait un petit peu, mais la politique ne m'a fait rien. Rien. Absolument rien. J'ai trouvé un Mérimée formidable qui m'a passionné et une musique et une femme incroyable. Que seulement je me disais, et pourquoi je n'étais pas comme ça libre? Que j'avais peur de tout quand j'étais très jeune. Je trouve que Carmen est très sensuelle. Et naturellement, la sensualité, ça va avec la sexualité. Mais elle est très sensuelle et pourquoi tous les hommes sont amoureux d'elle? Parce qu'elle a quelque chose qui se passe seulement son corps. Je crois que c'est Mérimée qui dit qu'elle regardait un homme, elle se disait, celui-là c'est pour moi. Et immédiatement l'homme tombait. Alors c'était l'esprit, mais c'était pas la poitrine.
Vous avez dit que Carmen vous avait révélé à vous-même.
On l'a dit.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Carmen, dans votre vie de femme aussi, ça a été quelque chose d'important?
Bon, c'est vrai que j'ai pris une force énorme pour me divorcer. Je ne savais pas, je savais, non, mais non, parce qu'il y a trois enfants. Et après, je dis, mais la vie est tellement courte. Tu vois, elle fait ce qu'elle veut. Moi aussi. Elle n'est pas divorcée, mais quand José se comporte comme se comporte, comme un, elle va à un autre, elle l'aime, elle va avec l'autre, je dis, et moi, pourquoi non? Moi aussi.
Quand je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas, peut-être je n'ai. Mais pas aujourd'hui, c'est certain. L'amour est un oiseau rebelle connu, ne peut apprivoiser. Et c'est bien avant qu'on l'appelle, si lui convient de refuser. Les femmes ne sont prières
Et c'est sur cette Carmen mythique dirigée par Abbado que se referme le 4e épisode des Grands Entretiens avec Teresa Berganza. Réalisation Marie Groux, prise de son Marcos Darras, mixage Eric Boisset, attaché de production Marion Guillemet. Fin de ce portrait demain, dès 13h. Grands Entretiens qui sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.